Avoine. Cette semaine, Ilana Navarro rencontre Alice Cherki. Ce soir, la femme qui interroge. Bonsoir Alice Cherki.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre expérience d'auteur du portrait de France Fanon. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de cette rencontre, nous parlerons un peu plus librement de votre rapport à la psychanalyse, à l'Algérie, à la France. Et j'aimerais commencer peut-être par une phrase de Peau noire, masque blanc, qui est d'ailleurs la dernière phrase de France Fanon. « Oh, mon corps fait toujours de moi un homme qui interroge. » Est-ce qu'on peut, pour vous, traduire cette phrase par « une femme qui interroge » ?
Vous voulez parler de moi en disant « une femme qui interroge ». Ben, si c'est ce que vous pensez ou ce que vous appréciez, pourquoi pas, ça ne me déplaît pas, effectivement.
Alice Cherki, vous avez dit hier que vous êtes partie d'Algérie en 1964 pour faire votre psychanalyse. Est-ce que la psychanalyse vous a réconcilié, si l'on peut dire, avec la France ?
Oh, je ne pense pas que ce soit la psychanalyse qui m'ait réconcilié avec la France. Est-ce que j'étais fâchée avec la France ? Je serais même pas capable de vous répondre à cette question. J'avais besoin de connaître une certaine France, pas la France dans laquelle on m'emmenait dans les Alpes quand j'étais petite pour prendre le bon air de la montagne. J'aimais pas les vaches, je vous l'ai dit, j'avais peur des vaches moi quand j'étais petite. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé que c'était un des vies, j'avais écrit un petit poème d'ailleurs à ce sujet, si un jour vous avez envie de le lire. Monstre de technique, pluvieuse indifférence, planète animée de je ne sais quel tourment, tournant à l'infini dans l'enfer du moment, c'est ici qu'est Paris, le vieux cœur de la France. Dépression solitaire, vie recroquevillée, près de la pâle chaleur d'un chat qui murmure, ombre disponible, automate pressé, solitude des murs ou bruissement de voiture. Amitié noyée dans une vie à crédit. Pauvre vie oscillant entre le « qui es-tu » et « où vas-tu devant » dans le gouffre des autres qui ne vous veulent pas. Chair qui se donne, corps qui se prend. Deux ouvriers se sont tués. L'immeuble qu'ils ravalaient s'est écroulé. Immeuble vétuste d'un vétuste Paris.
C'est sombre, en fait.
Vous voulez, en 64, c'était ça mon image de la France. Hein. C'est vrai, les gens étaient comme ça, tous pressés. Et, bon, je peux pas. Je pense que ce poème donne une atmosphère, si vous voulez. Dans mes projets, si vous voulez, de faire une analyse, j'ai été très bien accueilli. La psychanalyse, vous savez, c'est une traversée. Hein. Il y a des moments où c'est pas facile. Donc on peut pas dire que ce soit la psychanalyse qui m'ait réconcilié avec la France. Non, c'est plutôt la rencontre d'amis, la rencontre de celui qui est devenu après le père de mon fils, qui était lui-même du réseau Janson, qui avait fait un peu de prison, comme beaucoup de comédiens de ce monde-là, donc qui m'a montré une certaine France. Par exemple, ça a l'air idiot de dire ça, c'est le seul Français de France que je connaissais qui n'avait même pas été baptisé, parce que ses grands-parents étaient radical-socialistes, aussi bien du côté de sa mère que du côté de son père. Il n'avait pas été baptisé, il n'avait pas fait sa communion. Vous savez, on fait sa communion pour faire plaisir à la grand-mère. Là. Ça, c'est une chose que tous vos amis vous disent. Et en plus, il était de la région toulousaine, il connaissait très très bien tout ce sud-ouest de la France, et j'ai visité avec lui les églises romanes, des paysans, le Pays basque. Donc j'ai vu une certaine France, si vous voulez, qui m'a plu, qui était plutôt sympathique.
Est-ce que c'était important pour vous qu'il fasse partie du réseau Janson ?
Ça doit l'être puisque je viens de vous le dire, mais probablement, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré beaucoup de Français de France, hein, faut pas croire, hein. Dans les milieux psy, c'est obligatoire entre autres, hein. Puis il n'y avait pas que ça, Ce qui était important, c'est à la fois la proximité et la différence. Parce que c'était son engagement était très différent du mien, mais ça relevait d'une certaine proximité, de sa conception évidente que pour lui, je me souviens qu'on a été en Algérie, en France, on était en voiture, et décidément, comment il y en a qui osaient dire que la France, c'est la France de Dunkerque à Taman Rasset. Il disait ça avec beaucoup d'humour, mais pour lui, c'était évident depuis toujours que l'Algérie, c'était pas la France. Et ça, il l'avait réfléchi, ce qui n'était pas le cas de la majorité des, il faut bien dire, de la majorité des Français. En 56-57, c'était pas la représentation de la majorité des Français en France. Donc, probablement, puis bien d'autres centres d'intérêt. Il avait quand même joué 12 hommes encore. Enfin bon, peu importe. Hein, c'est, on ne peut pas analyser après coup ce qui fait que ce qui fait de l'amour entre un homme et une femme. C'est un autre débat.
Tout à fait. Mais tout à fait. C'était pas ça la question. C'était que vous étiez quand même assez seul parce que vous étiez dans un projet de construire une société, une nouvelle société, alors que d'un coup, vous n'aviez plus ça. Vous étiez en France, vous étiez certes avec la psychanalyse, mais il y a un côté effectivement très, très seul là, dans un pays surtout qui voulait oublier cette guerre, justement.
Ben, la solitude, moi je crois que... Moi la solitude, c'est jamais un truc... quand la solitude, une solitude voulue et créatrice, c'est pas douloureux. Ça peut être très créateur. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable. Donc, en même temps, j'aime beaucoup cette solitude créatrice, mais j'ai toujours été quelqu'un de très sociable. Donc, j'étais écouté quelqu'un, par exemple, à l'époque, parce que ça m'a marqué après. Je savais même pas qu'il s'appelait Serge Gainsbourg. C'était à La Fontaine au Roi. Et je me suis dit, ah, ce type-là... avec ses, je sais plus ce qui, je crois que c'était le poinçonneur des Lilas. Enfin, c'est un très très vieux souvenir. Je me suis sentie en très grande correspondance avec cet homme qui chantait, tout à fait inconnu, dont je connaissais pas le nom. Voilà. J'ai appris beaucoup plus tard qu'il s'agissait de Serge Gainsbourg. Puis j'allais écouter Léo Ferré, Brassens. En fait, je faisais partie de cet univers. Donc c'était. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'était il y a un microcosme dans lequel vous pouvez évoluer qui peut être enrichissant. J'avais toujours des liens, je retournais très régulièrement pendant les vacances en Algérie, ce qui m'a permis de suivre l'évolution du pays.
Et justement, par rapport à la guerre d'Algérie, est-ce que il y avait un silence qu'on peut comparer ou une sorte d'oubli, de volonté d'oublier?
C'était à la fois pareil et pas pareil, si j'ose dire. En France, à l'époque, donc dans ces années-là, on parlait plus des rapatriés que de la guerre d'Algérie, avec ce qu'on appelait les rapatriés. Qui n'étaient pas des rapatriés, parce que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la France avant d'y débarquer. Mais en fait, c'est comme ça qu'on les nommait, qu'on les a nommés pieds noirs, enfin bon, sans distinguer les différentes provenances des gens. Même les témoignages qui avaient été faits pendant la guerre, comme les ouvrages d'Henri Allègre, même les rapatriés témoignent, etc., on ne lisait plus du tout ces trucs-là, c'était devenu complètement obsolète. Donc, n'était pas de bon ton, ni de conversation courante, d'évoquer la guerre d'Algérie dans ces années-là. C'était chacun chez soi, ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Voilà. Puis il faut dire que les coopérants commençaient à revenir. Majoritairement, on n'en parlait plus. En Algérie, moi j'ai pas lu les livres d'histoire de l'époque, mais il est évident qu'il y avait une volonté que l'Algérie soit née le 5 juillet 1962. Voilà. Que tout ce qu'il y avait eu comme débat, controverse, pendant cette guerre qui avait duré 7 ans et 2 mois, n'était pas à l'ordre de l'enseignement. Et j'ai même un souvenir personnel. Quand j'étais venu Oui, en 68, je me souviens. Alors qu'en 68, il y avait quand même une certaine ébullition dans le monde. Il y avait quelques personnes qui m'interrogeaient sur 68, des jeunes. Mais j'avais rencontré chez des amis quelqu'un qui enseignait l'histoire et la géographie. Et j'ai dit quand même, je commençais à subodorer comme ça. J'ai dit, quand même, j'ai l'impression qu'on n'enseigne pas beaucoup l'histoire hein, aux jeunes ici en Algérie. Elle m'a répondu, pour construire le pays, l'important, c'est pas l'histoire, c'est la géographie. Ça m'avait beaucoup frappé. Mais parce que ça a comme fonction, ce genre de choses, de vous faire taire. Donc, on se tait. J'ai vu le socialisme boumédianiste s'installer. Je ne l'ai pas vécu du tout. Hein. Moi, j'étais de passage. Donc, les gens y trouvaient leur compte, hein, même s'il n'y avait rien à bouffer, comme ils disaient, parce que c'était très important. Hein. C'était difficile de trouver à manger. Les gens, d'une certaine façon, grosso modo, j'adore cette expression, ils trouvaient leur compte. Mais sans plus, après, voilà, c'est pas, on ne peut pas en dire plus. J'avais beaucoup d'amis qui avaient des doutes, y compris parmi les hauts placés.
Vous avez amené votre fils en Algérie dès qu'il était très jeune.
Pas si ça intéresse.
Non, mais c'était important. Est-ce que c'était important pour vous de transmettre ?
J'ai emmené mon fils quand il avait 3 ans. Je l'ai emmené en Algérie parce que justement, mes amis différents me disaient « Mais alors, quand est-ce que tu présentes ton fils à l'Algérie ?» Donc, j'ai emmené Olivier, Simon, Nessim en Algérie à l'âge de 3 ans.
Il a 3 noms, donc.
Oui, pour être dans les trois horizons, pour avoir le choix d'être dans 3 horizons. J'ai toujours pensé ça, hein, qu'on peut avoir des identités, des identifications multiples. Ce qui fait la richesse, je crois, de quelqu'un.
Alice Cherki, comment vous situez-vous dans la psychanalyse française avec votre parcours particulier ?
Ben écoutez, moi quand je suis arrivée, je ne connaissais rien, etc. J'ai été aux premiers qui m'ont accueilli, c'est-à-dire à l'Institut de psychanalyse. Je ne savais même pas qu'il y avait des scissions, je ne savais même pas qu'il y avait eu des séparations déjà au sein de cet institut mère. Donc j'ai fait la première partie de ma formation à l'Institut de psychanalyse, que j'ai progressivement quitté. Parce qu'à l'époque, il y avait la différence entre psychanalyse didactique et psychanalyse thérapeutique. Voilà. Et j'avais été admise à l'analyse didactique, c'est-à-dire qui faisait que vous faisiez cette formation pour vous-même devenir psychanalyste. On voyait trois personnes, voilà, puis vous deveniez. Donc j'ai fait une psychanalyse didactique à l'Institut de psychanalyse, que j'ai progressivement quitté et que je me suis retrouvée. Je me sentais assez bien. Là, j'avais des amis, je connaissais, j'avais François Perrier qui était au 4e groupe comme ami, etc. Puis progressivement, sur la demande de Lacan d'ailleurs, je me suis rapprochée de l'école freudienne, qui n'était pas encore dissoute. Voilà. Donc on pourrait dire que ma formation est freudo-lacanienne en rajoutant quelques autres, que ce soit Ferenczi, Winnicott, Searle, et mon expérience pratique. Voilà. J'ai fait partie aussi, j'étais une des fondatrices d'un mouvement qui était bien le Collège de psychanalystes, qui a duré 10 années, qui avait le mérite de regrouper des analystes qui venaient de toutes les écoles, mais dont le projet explicite était la psychanalyse et le lien social, qui est donc une question qui, moi, m'a travaillé depuis le début de ma formation. Donc, disons que je me situe dans cette mouvance-là. Après, quand il y a eu l'éparpillement des écoles... En plus, j'ai beaucoup critiqué le fonctionnement des institutions psychanalytiques, c'est-à-dire le fait que l'analysant allait dans l'école de son analyste, un peu comme s'ils allaient continuer le transfert et le supposé savoir, qu'ils allaient s'assujettir, etc. Moi, je trouvais que c'était incompatible avec la finalité d'une analyse. C'est-à-dire cette liberté de sujet, justement, qui faisait qu'on ne va pas adhérer pour réadhérer, si vous voulez, à un transfert interminable ou à une suggestion. Voilà. Donc voilà ma position était celle-ci. Donc je fréquente de temps en temps. Je suis invitée, hein. Ça m'arrive d'être invitée par rapport à ce que j'écris, à Bruxelles aussi, souvent. J'ai pas mal de sympathie avec l'association des ateliers de psychanalyse, qui est une petite association, qui ont d'ailleurs reçu pas mal des gens comme Farah Medjaheb, qui est une analyste algéroise, qui a même adhéré, je crois. Disons que, au jour d'aujourd'hui, comme ils disent en Algérie aussi beaucoup, voilà ce que je peux vous dire de mon parcours.
Alice Cherki, quand vous dites que quand vous êtes venue en France pour faire une psychanalyse en vue d'être utile pour l'Algérie, pour guérir les blessures de la guerre, en tout cas vous dites ça, est-ce que vous estimez que vous avez réalisé ce projet de vouloir devenir cette personne qui pouvait guérir les blessures de l'Algérie?
Attendez, peut-être qu'aussi c'est parce que moi j'avais envie de savoir ce que c'était. Hein. C'était pas simplement, je suis pas une bonne sœur. Hein. Probablement qu'il y avait aussi un désir d'aller un peu plus loin dans cette direction-là, pour mon propre devenir. Voilà, donc je ne le regrette pas, sûrement. Mais par rapport à l'Algérie, je veux dire que dans les années 65, j'étais invitée deux ou trois fois. Je me souviens d'Abdel Moumen, qui était une professeure de neurologie à l'époque, qui était aussi un grand ami à moi, m'avait dit « il faudrait que tu viennes parler aux étudiants de la psychanalyse, de l'inconscient, etc. » Et sûr que ça n'a pas été une réussite. Il y avait des psychologues qui commençaient à se former, qui ont montré plus tard. Il y a eu aussi plus tard des gens comme Oria Salri, Benouni, qui s'intéressaient beaucoup à ces questions, mais qui étaient toujours un peu en décalage par rapport aux institutions qui faisaient autorité. Et puis ultérieurement, c'est surtout après la... Après les années 90-2000, qu'il y a eu, très minoritairement, une demande venant de jeunes psychiatres et psychologues qui... Entre-temps, il y avait eu une initiative quand même qui avait été faite parce qu'il y avait deux psychologues, psychiatres qui avaient été formés en France, qui avaient essayé d'organiser, si vous voulez, avec Benouni, des rencontres dans les années 80-85 pour parler de psychanalyse à des jeunes psychiatres et psychologues. Et on se souvient y avoir été deux fois pour parler du traumatisme, du trauma férindien, du trauma, parce que il y avait eu des choses en 88, je sais pas si, enfin bon. Et c'est vrai que je partais d'une question, par exemple, un jeune psychiatre, on peut le comprendre, parce qu'il y avait eu beaucoup de violence, m'avait dit, croyait que j'allais leur parler de comment on indemnisait le traumatisme crânien. Donc il a fallu que je décale, si vous voulez, complètement. Mais c'était entendu de dire à ce moment-là. Et puis après, c'est après 2000 que des psychiatres assez de la jeune génération qu'on avait envoyés au front pour les débriefings post-traumatiques et qui sentaient bien que c'était bien au-delà de ça. Il y avait eu des enfants qui avaient vu leur sœur enlevée. Il y avait eu énormément de trucs terribles, des jeunes femmes violées. Enfin bon, avec l'opprobre porté sur les jeunes filles et non pas sur les violeurs. Donc là, je me suis retrouvée à accepter d'aller avec, pendant 2 ans, je crois, j'ai un peu oublié, hein, tous les mois ou tous les 2 mois, parce qu'il y a eu à ce moment-là les inondations, le tremblement de terre, enfin tout, il y a tout eu, hein, tout eu à ce moment-là en Algérie, pour un groupe d'initiation. un groupe d'initiation, qui ne voulait pas du tout se créer en association reconnue par l'État parce qu'ils voulaient. Ils avaient peur d'être kidnappés. Ils voulaient rester indépendants. Ça aussi, c'était très, très intéressant. Et puis en même temps, j'ai écouté aussi des psychiatres et des psychologues qui me parlaient des gens qu'ils avaient en consultation ou qu'ils voyaient régulièrement. Enfin voilà. C'est une question de transmission. Voilà. Et comme je le dis très souvent, la transmission, c'est toujours une transmission brisée. C'est pas on vous donne à manger et puis vous avalez ça sans reste. C'est-à-dire que la transmission brisée, c'est chacun prend pour le remanier à sa façon ce qu'il a entendu ou reçu. Et c'est que comme ça que ça marche. Donc, est-ce que dans ce sens-là, j'ai apporté ma pierre à cette transmission ? Peut-être, mais c'est pas à moi de le dire.
Est-ce que vous avez sans doute imaginé plusieurs fois ce que vous seriez devenu si vous étiez resté en Algérie ?
Imaginé plusieurs fois ?
Non.
Non. Quand je vois, entre autres, les circonstances de la disparition de femmes de mon âge, ou même un peu plus jeunes, ou un peu plus âgées, qui ont été des résistantes, et qui, même après l'indépendance, ont continué, comme Janine Belkhodja, par exemple, qui était une amie très très proche. Quand je vois leur combat, leur usure, toutes ces femmes, je veux dire, qui ont, quand je vois leur effacement psychique même, si vous voulez, avec un vieillissement plutôt précoce, ou des accidents de santé, de parcours, dont on peut dire que c'est pas toujours lié simplement au corps, parce que le, hein, il y a le corps et la tête, et puis il y a, entre les deux, ça fonctionne. Voilà. Je me dis que peut-être que je ne serais plus de ce monde aujourd'hui.
Si vous étiez resté là-bas.
Si j'étais resté de façon permanente en Algérie. Je ne sais pas. Et puis ma vie s'est faite ici. Hein. J'adore avoir. D'avoir une transmission qui consiste à avoir des enfants, des petits-enfants. Je n'aime pas la société d'aujourd'hui en laquelle on vit. Et c'est pas un truc, je dis pas comme les vieux, là, c'était mieux avant. Non, c'est pas du tout ça. Je dis pas ça du tout. Mais je dis que quand on voit, et c'est pas leur faute, quand on voit certains formatages de la jeune génération, si vous voulez, qui est dans l'efficacité immédiate, une certaine type de temporalité, ce que j'appelle en gros, même l'individualisme, dont ils n'ont même pas conscience, si vous voulez. Je me demande, cette aspiration à rendre l'homme éternel, ou même, si vous voulez, puisque ça m'amuse de vous dire ça, c'est vrai, j'ai de la peine pour le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour cette jeunesse, voilà. Parce qu'en plus, si vous voulez vous y penser, moi je me disais, il y a eu Galilée qui a expliqué à l'homme qu'il n'était pas au centre de la Terre, hein, qu'il n'était pas au centre du monde. Après, il y a eu Darwin qui a expliqué que l'homme, il descendait peut-être sûrement d'un truc dont on peut dire les chimpanzés, par exemple. Et puis, il y a eu l'inconscient, la découverte de l'inconscient, et qui est très très battu en brèche au jour d'aujourd'hui, qui disait que l'homme n'est pas maître de sa propre parole, voilà, et qu'on veut tout aplanir dans une espèce de d'homme immortel et de comportement à ras de conscience pour tout expliquer, y compris par la technique, le numérique, etc. Je m'interroge. Voilà, puisque vous disiez que j'étais une femme qui s'interrogeait. Voilà, je m'interroge.
On va finir peut-être avec Mémoire anachronique, où vous évoquez des souvenirs écartelés qui font des allers-retours entre la France et l'Algérie, entre le présent et le passé, de façon complètement libre et non linéaire, un peu comme si vous lanciez des pistes à vos lecteurs qui pourraient, le fil qui pourraient tirer le fil qu'ils veulent.
Oui, même pour Fanon, hein, je fais ça.
Oui, est-ce que c'était délibéré d'écrire comme ça ou c'était naturel pour vous?
Je n'aurais pas pu écrire autrement, ce genre de texte, si vous voulez. Je n'aurais pas pu l'écrire autrement, ce qu'on appelle les biographies ou assez linéaires, de « je suis né à tel endroit, de tels parents, dans telle ville ». Et puis, à vrai dire, je pense que, là aussi, je pense que ce n'est que de cette façon-là que l'on peut, que l'autre peut vous rencontrer. Or, ce qui est important, c'est que ceux qui lisent puissent en faire quelque chose personnellement, par identification de tel ou tel fragment. Voilà. Donc, et qu'en plus, je pense que raconter une vie ne peut se faire que par fragments. Par fragments, et justement, peut-être aussi restaurer quelque chose d'une temporalité qui ne soit pas univoque d'un temps, d'un plat et présent, mais montrer comment le présent ramène le passé pour construire un avenir.
On va terminer sur cela. Merci beaucoup Alice Cherki de nous avoir accueillis cette semaine.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Fin de cette rencontre d'Ilana Navarro avec Alice Cherki. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Michel Gassic. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.